Chapitre 6. De pierre et de bois. Le chauffeur vient de repartir en se disant qu'il y a de jolis bouts du monde, que les Vosges comptent des noms de chemins et de lieux-dits tous plus étranges les uns que les autres. Et aussi que les deux petits seins de la femme qu'il a accueillis sur place étaient mignons. Il s'arrêtera une centaine de mètres plus loin, à l'entrée d'un chemin de forêt, pour se soulager en admirant la vue et réaliser la tristesse de sa vie. Ils doivent être tellement plus heureux ici que le derrière calé dans un taxi 8 heures par jour et 3 nuits par semaine. Puis il remontera sa braguette, s'engouffrera dans son véhicule à 60 000 euros en leasing, démarra sur les chapeaux de roue pour fuir au plus vite cet idéal insolent et aller charger un parlementaire et sa soi-disant collaboratrice qui, sur la banquette arrière, l'assistera pour autre chose que ses dossiers européens. Clémence regarde s'éloigner le taxi et ses dernières chances de rebrousser chemin. Elle a envie de partir en courant. Sa minuscule bonne volonté posée sur son épaule lui chuchote cependant qu'elle tient une enveloppe contre elle dont elle pourra faire ici bon usage. Les arbres, les champs bordés de haies, l'étang, les vieilles pierres, les centaines de fleurs. Karine s'est allumée une cigarette pour accroître un peu plus l'effet apaisant de ce paysage à couper le souffle. La maîtresse des lieux est partie chercher 2 bras solides pour les valises, bien lourdes pour un terrain si peu carrossable. Karine aime instantanément l'endroit. La vue sur les montagnes, la lisière de la forêt de l'autre côté de la petite route. Ce refuge bucolique semble parfait pour se déconnecter de la réalité. Elle rongera son frein pour les magasins ou se fera plaisir sur Internet. Elle imagine que le facteur livre des colis, même dans des lieux aussi perdus. Alors qu'Adrien arrive pour porter les bagages, Karine tire une dernière fois sur sa cigarette et jette le mégot dans le fossé. « Désolé de commencer par une réprimande, mais je ne veux plus voir de mégot jeté dans la nature. Un pot en terre est à votre disposition sur le perron de la maison. » Vous faites ce que vous voulez en ville, si vous vous fichez de la pollution. Ici, vous pouvez provoquer un incendie, surtout avec la sécheresse de ces dernières semaines. Il suffit d'un geste de ce genre au bord d'une autoroute pour brûler des milliers d'hectares de forêt. À peine a-t-il fini sa phrase qu'une minuscule volute de fumée s'échappe de l'amas de feuilles mortes qui tapissent le fond du fossé. Il les étale sur la route avec ses chaussures de travail, piétine le mégot, le ramasse, et le rend à sa propriétaire en lui épargnant la preuve. Karine se confond en excuses, penaude et honteuse. Elle a raté son entrée, s'en veut terriblement. Elle essaie de sauver les apparences en les félicitant pour la beauté du lieu, en les remerciant de les accueillir. Elle en fait presque trop. Quand elles entrent dans l'ancienne grange réaménagée, elles sont saisies par l'odeur du bois présent partout. Sur les portes des meubles de cuisine, sur les murs, au sol et au plafond. Un énorme tronc débarrassé de son écorce est installé au milieu de la grande pièce ouverte, comme s'il supportait tout l'étage à lui seul. Sa surface est tellement lisse qu'on a envie de le caresser. Clémence hésite. Elle le fera quand elle sera seule. Un bouquet de graminées et de fleurs sauvages a été déposé sur l'îlot central de la cuisine, un autre sur la table de la salle à manger. De larges ouvertures rendent l'endroit lumineux et permettent de se sentir en immersion dans la nature environnante. Comme une cabane dans la forêt. D'ailleurs, leur précise Capucine, elle pourrait bien apercevoir un écureuil au petit matin qui vient danser entre les arbres les plus proches. Sous l'escalier qui mène à l'étage, des canapés ont été disposés autour d'un tapis épais. Une bibliothèque porte de nombreux livres, des romans, des essais, des BD, pas de télévision. Choix des hôtes, immersion dans le vivant à l'abri des écrans. De magnifiques photos encadrées ornent les murs, des animaux dans la neige, des étendues immenses. Clémence est happée par les clichés, s'y attarde. Vincent Munier, un photographe qui n'habite pas très loin d'ici. La Panthère des Neiges, tu connais? Un nom de la tête. On poursuit la visite. L'étage dispose de 2 espaces indépendants séparés par un palier. Chacun comprend 2 chambres et une salle de bain. Les lits sont faits, les serviettes éponges posées sur la couette. Rendez-vous est donné 1 demi-heure plus tard pour partager un goûter et faire connaissance. Elles ont choisi le côté est, pour le lever du soleil. Clémence laisse le lit double à son aîné et opte pour la plus petite des deux chambres, qui n'accueille qu'un couchage simple, en bois brut, ainsi qu'une table de chevet et un bureau adossé à la fenêtre. La housse de couette à carreaux bleus et blancs lui rappelle l'album de boucles d'or que la maîtresse de maternelle leur racontait. Elle se souvient avoir longtemps eu de la peine pour le petit ours qui retrouvait sa soupe mangée, sa chaise cassée, son lit occupé. Sans comprendre pourquoi, elle n'aimait pas l'idée. Aujourd'hui, elle sait. Un cœur en tissu est accroché au-dessus du lit, petit détail réconfortant. La jeune fille laisse sa valise fermée au pied de l'armoire. Une partie d'elle-même espère encore pouvoir repartir. Sur l'oreiller, elle a déposé l'enveloppe encore close et son doudou fatigué. On devine les oreilles d'un âne cousu sur une tête encore un peu rembourrée. Le reste n'est qu'un tissu aux couleurs délavées et usées jusqu'à la moelle. Elle s'est assise, l'a portée à son visage pour retrouver son odeur de madeleine et regarde par la fenêtre. À travers le carreau, Clémence observe la montagne bleue au loin, une colline plus proche, couverte de sapins, la prairie criblée de fleurs, la haie touffue, les deux chevaux. Elle détaille les pastels du ciel, les différentes nuances de vert de la forêt, la structure des nuages. Jamais partie en vacances, elle ne connaît que des paysages urbains, avec pour seul exemple d'arbres, ceux des parcs de Strasbourg où l'emmenait sa grand-mère quand elle était petite. Ici, le ciel paraît plus grand. Seules quelques rares maisons apparaissent au loin, petites comme des pièces de Lego. Cette chambre sera son espace à elle, son abri, son coin tranquille, où venir se réfugier quand le bruit sera trop fort, les autres trop présents, les peurs envahissantes. Elle entend Karine s'activer à côté, jurer en se cognant la tête à la mansarde, ouvrir et fermer les portes du placard, puis sortir de la pièce en l'appelant.
« T'aurais aperçu un séchoir à linge ?»«
J'ai vu des cordes dans le jardin. »« Tu penses que je peux suspendre mon soutien-gorge dès le premier jour ?»« Je vais demander à faire une lessive, ce sera plus simple. »« T'as des vêtements sales ?»«
Non. »«
Il te manque quelque chose ?»«
Un chiffon. »«
Un chiffon ?» La jeune femme laisse la question flotter dans l'air et s'éloigne dans un souffle à peine perceptible. L'heure est arrivée de rejoindre les hôtes. Clémence est précise, ordonnée, respectueuse des horaires. Clémence n'a pas l'âge de son âge. Elle a vieilli brutalement l'année de ses 7 ans. L'insouciance a alors lâché les rênes de sa vie. Depuis, pour se rassurer, elle contrôle en permanence son environnement, le programme de chaque journée. Ainsi, il ne peut rien lui arriver. En théorie. Capucine et Adrien ont dressé la table dans le jardin à l'ombre d'un pommier. On entend le bourdonnement des insectes dans le feuillage. Les oiseaux volent alentour dans un piaillement permanent. Moineaux, rouge-gorge, chardonnerets, rouge-queue, des pies, des geais. 3 rapaces planent dans le bleu du ciel en mouvement circulaire et prennent de l'altitude avec les courants ascendants. Un jus de pomme sans étiquette attend sur la table.
Quelqu'un prendra une boisson chaude ?
Un café, volontiers, répond Karine. Personne ne l'a entendu. Le coq a chanté en même temps qu'elle, sous la volière, à 2 mètres seulement.
Hein ? Café !
Ce sera de l'eau pour Clémence, qui accepte finalement un fond de jus de fruits. Juste un fond. Une plate-bande de fraisiers s'avance jusqu'à eux. Sous les feuilles d'un vert sombre, on distingue des fruits à différents stades de maturité. Des fraises rouges, des roses avec le bout encore blanc, des toutes petites et des fleurs prometteuses un peu partout, gage d'une récolte étalée dans le temps. La tarte faite avec sel cueillie le matin même est appétissante. L'entrée en matière est complexe pour les hôtes. Par quoi commencer ? Que leur demander ? Sous le regard rassurant d'Adrien, Capucine finit par se lancer en pensant à sa petite sœur qui serait déjà intervenue depuis longtemps. « Vous êtes les premiers occupants de la structure que nous avons mise en place. Nous avons acheté cette maison en ruine et son... » Le coq réitère, dressé sur ses ergots, la tête jetée en arrière. « Terrain il y a 2 ans pour laisser derrière nous notre passé et permettre à d'autres d'en faire autant, puisqu'il y a de la place et de la paix ici. Et beaucoup d'animaux, 12 poules, quelques chats, 2 chiens.
« Les chevaux sont aussi à vous ?» demande Karine.
« Oui. » Stevia et Tundra, on vous les présentera.
Et nous aurons bientôt des chèvres, précise Adrien.
Capucine explique que le travail ne manque pas. Le potager à gérer, les bêtes à nourrir, la forêt à entretenir, les projets en cours à finir et prendre du temps pour soi. Nous n'allons pas vous demander une participation intense, seulement de nous aider en échange du gîte et du couvert. Nous essayons de manger ce que notre micro-ferme nous fournit, même si nous ne sommes pas encore autosuffisants. L'objectif étant d'y tendre. Et que nous pourrons-nous faire ? Interroge Karine juste avant un énième cri du coq. La réponse de Capucine lui convient. Donner de son temps en fonction de ses compétences et de ses forces, s'autoriser à apprendre dans les domaines qu'on ne maîtrise pas, partager les tâches définies chaque début de semaine et réadapter en fonction de l'avancement. Il est précisé qu'un jeune homme les rejoindra le lendemain. La liste des activités sera répartie quand l'effectif sera au complet. Nous prendrons les repas de midi ensemble. Pour le petit déjeuner et le dîner, vous serez autonome. Nous irons faire les courses une fois par semaine, ou vous seul. Nous pouvons vous prêter la voiture. Karine se présente brièvement. Elle évoque sa panne de secteur sans en préciser la raison. La honte ne l'a pas totalement quittée. Un jour peut-être, racontera-t-elle. Ou pas. Elle se souvient avoir participé au foin dans son enfance, chez ses grands-parents, avec des machines rudimentaires. Adrien précise que la corvée est prévue à l'ancienne ici aussi. Faneuses et endaineuses sont victimes de leur grand âge et souvent capricieuses. Seule la presse est encore relativement fonctionnelle. Karine se débrouille également en cuisine. Elle sait faire un lit, le ménage. Elle veut bien apprendre à jardiner, à maçonner, découvrir ce qu'elle ne connaît pas. Et toi, Clémence, à quoi aurais-tu envie de participer ici ? Et c'est Capucine qui sent la jeune femme mal à l'aise à l'idée de parler d'elle.
J'aime bien les chevaux, mais ils me font un peu peur.
Nous nous en occuperons ensemble, et quand tu te sentiras rassuré, tu pourras y aller seul, propose Adrien. Capucine a prévu le premier dîner en commun, afin de laisser le temps à chacune de prendre ses marques. Ils feront quelques achats le lendemain matin, et la routine s'installera à l'usage.
Je vous propose un temps pour vous jusqu'au dîner. Vous avez l'ensemble du domaine à disposition. Nous limitons seulement l'accès à notre habitation privée ainsi qu'à la partie est du jardin, que nous avons délimitée avec une petite barrière de saule tressée. Clémence repart avec son chiffon et sa timidité vers la grange. Voilà beaucoup d'informations en peu de temps. Elle n'a plus l'habitude. La vie cadrée à l'hôpital était bien plus sécurisante. Elle ira peut-être voir les chevaux après le dîner, en restant derrière la barrière. En attendant, elle cherche un cahier et un stylo au fond de son sac. Karine s'éloigne sur la petite route goudronnée. Elle fait un signe à un vieux sur son banc qui la regarde passer et lui répond en soulevant sa canne. Elle va appeler l'homme de sa vie. Le seul, avec le docteur Diderot à qui elle veut montrer sa volonté de se relever. Pour lui raconter la beauté des lieux et la gentillesse des hôtes. Lui décrire l'espoir qu'elle ressent à l'idée de retrouver ici l'envie de repartir au charbon. Elle ignore encore dans quelle mine. Mais d'abord l'envie. D'abord l'envie.
Allô, Timothée ?